grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Comment vivre, survivre au suicide d'un proche, un frère, une sœur, une mère, un père, un conjoint, un ami? Comment surmonter cette perte le plus souvent imprévisible, toujours traumatisante? Comment accepter les répercussions d'un acte qui change à tout jamais le cours de la vie de ceux qui restent? Comment vivre sans la personne qui a choisi de partir? Comment vivre avec l'inévitable culpabilité? Comment surmonter ce stress post-traumatique? Pour nous aider à répondre à ces difficiles questions, sans réponses univoques, nous recevons Olivia de Lamberterie qui publie un beau récit, avec toutes mes sympathies, et les psychiatres Christophe Fauré et Charles-Édouard Notre-Dame. Vous pouvez témoigner ce matin au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Vous retrouverez tout à l'heure les choses vues assurées cette semaine par la psychiatre Aurélia Schneider et en fin d'émission, l'intervention de Marie-Laure Sunshein de Femme Actuelle. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Comment survivre au suicide d'un proche? Avec nous, le psychiatre Christophe Fauré, spécialiste des ruptures de vie. Vous publiez une nouvelle édition de Vivre le deuil au jour le jour. Charles-Édouard Notre-Dame, vous êtes psychiatre au CHRU de Lille, spécialiste de la prévention du suicide. Et Olivia Lamberterie, bonjour.
Bonjour.
Chef du service littéraire OL, bien connu des auditeurs du Masque et la Plume de notre ami Jérôme Garcin. Olivia Lamberterie, votre frère Alexandre s'est jeté du pont Jacques Cartier à Montréal le 14 octobre 2015. Votre super-héros a sauté sans sa cape magique.
Oui, cette expression, elle traduit ce que j'ai voulu faire dans ce livre et après sa mort. C'était effectivement le voir comme un super-héros. J'ai été très frappée lorsqu'il est mort et lorsque je disais aux gens que mon frère s'était suicidé par l'image que le suicide renvoyait. C'est-à-dire tout de suite quelque chose qui relève de l'échec et ensuite quelque chose qui relève du tabou. Les gens, en fait, le suicide coupe les mots, il coupe la chic aux gens. C'est-à-dire que les gens vous disent « je ne sais pas quoi te dire ». Et puis, après, il y a des phrases beaucoup plus embarrassantes et beaucoup plus gênantes qui sont « comment a-t-il pu faire ça ?» Voilà. Et alors, toute cette espèce d'environnement comme ça sonore, moi, je voulais donner un coup de pied et dire que c'était pas ça.
Charles-Édouard Notre-Dame, sur le tabou du suicide.
Oui, je trouve ça extrêmement juste. Moi, j'étais extrêmement touché par le livre d'Olivia de Lamberterie, justement parce qu'il y a un tabou qui est très fort, qui frappe le suicide dans la société. Et c'est un tabou qui est extrêmement délétère, puisque toutes les personnes qui sont endeuillées par suicide, mais aussi toutes les personnes qui souffrent d'idées suicidaires, souffrent énormément de ce tabou. Et c'est un tabou qui les empêche, finalement, d'accéder à des soins, d'accéder à un accompagnement. Et l'œuvre qu'a fait Olivia de Lamberterie, ça permet aussi de mettre des mots sur l'inénarrable, et donc de lever de ce tabou-là. Je pense que c'est vraiment salutaire.
Christophe Fauré.
Oui, et ce tabou enferme dans le silence. Il y a la perte de la personne qu'on aime et une deuxième peine qui est de se trouver complètement pris en otage d'un silence que personne n'ose rompre. Et le silence est le corollaire d'une espèce de honte de porter quelque chose qui est vécu comme une tare et qu'on doit presque parfois s'obliger à dire mais non, je suis pas porteur de cette tare, comme si on devait se faire excuser ou pardonner de cet acte de détresse de la personne qu'on a perdue.
Olivia de Lamberterie, votre frère vivait avec sa femme au Canada. Il était directeur artistique chez Ubisoft. Cette nuit-là, la nuit du suicide, votre répondeur est en mode avion. Et quand vous le remettez en mode Wi-Fi, plusieurs appels en provenance du Canada, de votre sœur Caroline également, vous savez que c'est fichu.
Oui, je sais que c'est fichu parce que ma belle-sœur a pas l'habitude de m'appeler en pleine nuit, et puis parce que l'été qui avait précédé ce mois d'octobre, mon frère avait déjà disparu. Donc je savais, j'espérais évidemment que ça n'arriverait pas, mais en tous les cas, je savais que ça n'allait pas bien. Oui, oui.
Et vous éprouvez le sentiment de traverser un moment, vous dites, irréversible. Vous le sentez dans votre chair,
oui.
Ce sentiment-là d'irréversibilité.
Oui, parce que je trouve que c'est la première fois dans ma vie entière que je traversais effectivement une épreuve où je savais que plus rien ne serait comme avant. Et en même temps, c'est très curieux ce deuil, parce que on a ce sentiment intime, et puis pourtant la vie autour de vous est exactement comme avant. Donc je trouve que c'est ça qui était compliqué à vivre, et c'est ça que je voulais raconter, c'est comment vous êtes à la fois. J'étais transpercée de chagrin à un point dont je ne savais même pas que ça pouvait imaginer, et puis en même temps, il faut faire le petit déjeuner aux enfants, la vie est là. Je trouve que c'est ces chocs qui sont très curieux, et en même temps qui vous obligent à avancer.
Martine nous dit par courriel, ma troisième fille s'est pendue il y a 17 mois à l'aube de ses 32 ans. Le plus difficile, c'est de se résigner au caractère définitif et irréversible de ce départ brutal. Christophe Fauré, le suicide d'un proche, c'est un deuil particulier, singulier?
C'est forcément un deuil particulier parce qu'il y a une violence inhérente à la perte brutale de la personne qui met fin à ses jours. Et très souvent, ce sont les proches qui découvrent à la maison. Et donc, alors qu'à l'hôpital, si on accompagne quelqu'un qui a un cancer, il y a tout un environnement qui vient amortir la violence du décès. Et là, on se retrouve parfois tout seul, avec parfois pendant une demi-heure ou une heure avec la personne en attendant les secours. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a le risque d'une empreinte traumatique qui va peut-être donner après des séquelles post-traumatiques qui vont, en plus du processus de deuil, venir complètement parasiter le cheminement intérieur.
Docteur Charles-Édouard Notre-Dame.
Oui, il y a aussi une composante qui est extrêmement importante et dont on sait qu'elle est particulièrement prégnante dans le deuil par suicide, c'est la question de la culpabilité. Et cette question de la culpabilité, elle s'inscrit dans une espèce de quête de sens effrénée, une quête de sens extrêmement douloureuse du pourquoi, du comment, et souvent qui glisse vers le « et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait ?» C'est une composante qu'il faut savoir prendre en compte, qu'il faut savoir écouter. Et ce qui est important en même temps de dire, c'est que en général, les personnes qui présentent des idées suicidaires extrêmement fortes, eh bien, elles vont avoir tendance à émettre des signes et des signaux qui sont pas forcément perçus par l'entourage, mais pour plein de sortes de raisons, et en particulier parce que ce sont des signaux discrets, qu'il est difficile d'interpréter a priori comme étant inquiétants, parce que c'est partagé à différentes personnes qui échangent pas forcément entre eux, et surtout parce que les personnes qui ont des idées suicidaires, elles ont tendance à vouloir protéger leurs proches, elles ont tendance, et puis il y a souvent une honte et une culpabilité aussi chez les personnes qui ont des idées suicidaires qui fait qu'elles n'en parlent pas.
On reviendra tout à l'heure sur la question de la culpabilité et des signes annonciateurs. Olivia d'Amberthery, votre frère était marié à Florence. C'était un couple inspirant pour leurs amis à Montréal. 15 ans avant ce suicide, votre frère fait une première tentative. Il est retrouvé ensanglanté dans une baignoire. Et votre belle-sœur, comme vous l'écrivez, a ajusté leur quotidien aux idées noir de son mari.
Oui, parce que mon frère était un personnage très flamboyant, je trouve, et qui vivait sans doute les moments de bonheur et les moments de malheur avec plus d'intensité que d'autres personnes. Et je pense que son épouse, qu'il connaissait très bien, effectivement, non pas le surveillait, parce qu'elle n'avait pas du tout une attitude maternelle vis-à-vis de lui, mais elle le connaissait très bien. Et elle, effectivement, elle a ajusté leur quotidien à la mélancolie de son mari.
Votre frère souffrait de dysthymie, c'est une forme de dépression?
Oui, c'est un mot qu'on a mis sur sa maladie, mais très très peu de temps avant de mourir. Il est resté quand même très longtemps hospitalisé à Sainte-Anne, sans qu'on mette de mots sur la maladie.
C'est quoi la dysthymie exactement, docteur Christophe Fauré?
Dysthymie, ça peut être une forme mineure de ce qu'on pourrait appeler les troubles bipolaires. Au lieu d'avoir des grands extrêmes de l'humeur entre l'état maniaque, l'état mélancolique profond, on a ces oscillations mais qui sont tout aussi dangereuses pour la personne parce que c'est beaucoup plus soft, entre guillemets, et ça met moins de signaux d'alerte. Et quand les personnes font une relecture de tout ce qui s'est passé, ils voient après, à la lumière du suicide, j'aurais dû voir ça. Et c'est cette culpabilité de ne pas avoir vu qui vient hanter pendant des années et des années.
Aurélia Schneider.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a chez le patient une hypersensibilité au rejet social et aussi une difficulté à identifier eux aussi les signaux qui viennent de l'environnement et qui pourraient leur faire du bien.
Exactement. Alors, Olivia de Lamberterie, vous écrivez à propos de la dysthymie de votre frère, ce Mr. Hyde, guettant, tapis dans le bonheur, les heures fragiles, les matins de pluie, les cafards du dimanche soir, pour crucifier.
Oui, parce que nous avions une relation très proche, on parlait beaucoup, hein, et il me racontait justement comment, alors que tout allait bien, la mélancolie, la tristesse s'abattait sur lui. Hein. Et c'était d'ailleurs une chose qui le rendait coupable, lui. C'était qu'il disait, j'ai tout, et pourtant je n'y arrive pas. Après, je pense que, en tous les cas, dans le cas de mon frère, il ne s'est pas suicidé à cause de quelque chose. Je pense que c'est plutôt de l'ordre d'une sorte de mélancolie sans objet, donc beaucoup plus compliqué à appréhender. Hein. Et je ne sais pas d'ailleurs, vous, psychiatre, vous le savez mieux que moi, mais je regardais le Romain Gary, et il prend bien soin, lorsqu'il se suicide, de laisser une lettre où il explique que ça n'a rien à voir avec la mort de Jean Seberg. Il dit « Fervent du cœur brisé, adressez-vous ailleurs ». Donc là aussi, il me semble que c'est une suicide sans cause.
Charles-Édouard Notre-Dame.
Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que c'est fréquent, notamment dans la presse, par exemple, qu'on rapporte un suicide à un événement précipitant. Or, on sait très bien que le suicide a de multiples facteurs explicatifs qui sont de multiples natures, d'ailleurs. Il y a des facteurs héréditaires, même si, évidemment, il n'y a pas un gène du suicide, mais il y a une vulnérabilité suicidaire. Et je pense qu'Olivier de Berterie a parlé aussi d'une famille aussi. Il y a beaucoup de suicides. Il y a la maladie mentale, et ça, il faut le souligner, chez 80% des personnes qui suicident, il y a un trouble de santé mentale, et puis il y a des facteurs d'adversité variables. Un suicide ne ressemble évidemment pas à l'autre. Ce qui est extrêmement important à prendre en considération, c'est que on ne peut pas réduire le suicide à un facteur précipitant.
Docteur Christophe Fauré.
Et très souvent, les proches sont hantés donc pendant des années sur le pourquoi, mais quand on a demandé aux personnes qui avaient fait des tentatives de suicide et qui s'en étaient réchappées, je me dis, mais pourquoi, que s'est-il passé pour toi? Et très souvent, les gens disent, je ne sais pas. Et la personne elle-même ne sait pas, alors que ses proches sont, je dirais entre guillemets, condamnés pendant des années à mettre des raisons pour laquelle la personne elle-même n'était pas détentrice.
Olivier Lamberterie, vous écrivez ceci, « Ce ne sont jamais sur les idiots que le couperet de la Grande Dépression s'abat en silence pour entamer son long travail de sabotage. »
Oui, parce
c'est hélas tombé sur votre frère.
C'est qui était tout sauf un idiot, qui était brillantissime, parce que j'avais, pour essayer de réfléchir sur ce suicide, ce que j'avais à m'apporter, c'était les livres. Et je regardais dans ma bibliothèque, et c'était les auteurs que j'aimais, c'était Romain Gary, c'était Hemingway, c'était Sylvia Plath. Et il me semblait que le point commun entre tous ces écrivains, c'était une hypersensibilité au monde, et aussi une immense lucidité. Et je pose la question, je me disais, mais est-ce que trouver que la vie c'est dégueulasse, est-ce que ça veut dire qu'on est malade, hein? Je ne sais pas.
Il y a des moments drôles dans votre livre. Hein,
quand, par exemple, mon frère était très drôle.
Oui, parce que quand vous visitez votre frère chez les dingos, hein, vous ne dites pas l'hôpital psychiatrique, vous dites les dingos.
Chez les dingos.
Oui, parce que je voulais raconter ces instants passés à l'hôpital psychiatrique, parce que j'ai été très émue par eux. J'ai eu vraiment une sorte d'empathie pour ces gens que je trouvais invisibles. Et il n'y avait pas beaucoup de visites. Hein. Avec ma belle-sœur, on était presque les seuls. Et puis parfois, on venait un jour, et puis le lendemain, les gens n'étaient plus là. Et un jour, j'ai demandé à une infirmière, j'ai dit, mais où est-ce qu'il est passé, le monsieur? Alors, en général, les gens ne veulent pas du tout répondre à vos questions à l'hôpital, surtout dans les urgences psychiatriques. Mais je me disais, mais où sont passés ces invisibles? Mais ils avaient une détresse qui parfois peut être drôle si vous tournez un tout petit peu le curseur. Effectivement, ça devient un film de Charlie Chaplin.
Marie-Laure Zonshine, vous avez lu avec toutes mes sympathies d'Olivier de Lamberterie.
Oui, je crois qu'on a tous un peu la même impression d'une très forte émotion, d'une, alors, sympathie, empathie aussi. Je reviens juste un instant parce que c'est vrai que ça m'a troublée et je vous cache pas que je me suis aussi posé la question qu'a évoqué rapidement Charles-Édouard Notre-Dame. Vous-même, vous le dites, est-ce qu'il y a un gène du suicide? Et on sent que vous avez envie d'avoir cette explication, cette réponse, et c'est vrai qu'on se la pose aussi.
Je me la supposais et en même temps, je ne suis pas sûre que j'avais envie d'avoir l'explication parce que si j'avais l'explication, ça aurait peut-être pu changer des choses. Et il y a vraiment une voie dans laquelle je n'ai pas été par une sorte de protection intuitive. C'était si il s'était passé ça, les choses auraient été autrement.
Quatre cousins germains de votre père voilà. Se sont suicidés.
Alors après, voilà, si je retourne devant ma bibliothèque, le père d'Hemingway s'est suicidé, Hemingway s'est suicidé, son frère, sa sœur et sa petite-fille.
Charles-Édouard Notre-Dame.
Il n'y a évidemment pas de gène du suicide. Il y a, pour certaines situations, un ensemble de variations génétiques qui pourraient expliquer une certaine vulnérabilité. Mais ce qui est extrêmement important à dire, comme la cause unique d'ailleurs, ou comme les causes génétiques, c'est qu'il n'existe en aucun cas une fatalité. Pour aucune situation, une personne qui a des idées suicidaires, forcément va finir par mourir parce qu'il aurait tel ou tel facteur de risque. Pour toutes les personnes, il y a la possibilité d'apporter des soins. Et les soins, ça peut être toutes sortes de soins, des soins psychologiques, psychothérapeutiques et éventuellement, si nécessaire, médicamenteux.
Allez, comment vivre, survivre au suicide d'un proche? Comment surmonter la colère, la culpabilité, la honte? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation Stéphanie Texier et Charles Aznavour, évidemment.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'ai Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir. Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que
Charles Aznavour, et pourtant.
Annie Rébéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h25, comment vivre, survivre au suicide d'un proche? Nous recevons ce matin Olivia de Lamberterie qui publie un beau récit avec toutes mes sympathies et les psychiatres Christophe Fauré et Charles-Édouard Notre-Dame. Écoutons l'artiste Nan Goldin dans L'heure bleue la semaine dernière sur France Inter.
My sister's suicide was the definitive moment of my life.
Le suicide de ma sœur est le moment important de ma vie.
Everything. It was like BC before Christ.
Il y avait, si vous voulez, un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ.
I think we have those in our lives.
C'est mon curseur. Il y a ces moments, j'en ai eu quelques-uns. Nous avons ça dans notre vie en général.
Where everything changes in a minute.
Où, en un instant, tout bascule.
The loss of my sister had a lot to do with why I photographed.
La perte de ma sœur explique très largement mon intérêt pour la photographie. La raison pour laquelle j'ai fait de la photo.
At the time, I wanted to be sure I remembered everything.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je voulais m'assurer que j'allais bien me souvenir de tout.
Because after some time, you begin to
lose
the face.
Parce que au bout d'un certain temps, on perd la foi, on perd le visage, on perd les yeux, on oublie la voix aussi de cette personne.
I think that has to do with why I.
Et c'est probablement une des raisons
so deeply into
qui explique que quand je fais de la photo, j'ai vraiment besoin d'aller en profondeur dans les gens.
Beneath the skin.
Sous la peau.
La photographe Nan Goldin dans L'heure bleue de Laura Adler la semaine dernière. Olivia de Lamberterie, pour vous aussi, il y a eu un avant et un après la mort de votre frère Alexandre?
Ah oui, vraiment, je pourrais reprendre à mon compte tous ces mots. Il y a l'avant mort d'Alex et l'après mort d'Alex. Et il y a le fait que j'ai souhaité écrire pour exactement les mêmes raisons, pour me souvenir de tout. Parce que je trouve que le suicide, comme je le dis, c'est la double peine. Parce que non seulement il vous ravit quelqu'un que vous aimiez, mais en plus, il interdit de se souvenir du bonheur. Et ça, j'ai trouvé que c'était dégueulasse et injuste. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt d'une maladie, vous avez encore le droit de vous souvenir des moments où vous avez rigolé avec lui. Vous pouvez vous souvenir de la joie. Or là, j'avais l'impression que le suicide, si vous voulez, ça recouvrait tout d'une sorte de manteau de cendre et même la joie était interdite, même la joie passée. Et moi, je voulais absolument me souvenir justement des joies qu'on avait eues ensemble et de la vie pleine et riche qu'il avait eue aussi. Vraiment, le suicide est une sorte de filtre noir qui recouvre tout. Et ça, je trouve que c'est impossible pour justement ceux qui restent.
Docteur Christophe Fauré.
C'est terrible pour des parents ou des conjoints ou des enfants de voir la vie de la personne qu'ils ont aimée se résumer à l'acte suicidaire et que tout ce qu'on a vécu d'heureux, de bon avec la personne n'est lu qu'à travers ce prisme-là. Et ça peut vraiment transformer la relation qu'on a avec la personne. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire que cette expression complètement, excusez-moi, mais débile de faire son deuil, qui ne veut strictement rien dire, parce que comme le dit la personne dans l'heure bleue, il y a un avant et un après, il n'y a pas de fin au deuil. Ça ne veut pas dire qu'on est immergé dans cette souffrance inextricable à tout jamais, mais il y a quelque chose comme ça qui persiste en soi, et on est malaxé jusqu'à la fin de sa vie par ce qui s'est passé.
Docteur Charles-Édouard Notre-Dame.
Il y a quand même un paradoxe avec le suicide, parce que quand il nous tombe dessus, l'expression est peut-être un peu malheureuse, mais il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Il y a comme une prise de conscience qui est effractante. Tout à coup, on est aux prises avec l'absence de sens, avec l'absurde de ce geste-là. Alors que quand on n'a pas connu de suicide parmi ses proches, finalement, on ne veut pas y penser. Il y a quelque chose de très lointain et ça participe aussi de cet interdit qui est. Il y a quelque chose qui est insupportable à l'idée de penser du suicide. Et moi, je pense que grâce à des récits comme celui d'Olivier de Lamberterie, il s'agirait qu'on réussisse ensemble collectivement à penser au suicide et à penser aux personnes qui ont des idées suicidaires également, parce qu'il est aussi d'une responsabilité collective de pouvoir faire de la prévention.
Le livre d'Olivia, c'est vraiment, il y a une universalité, c'est l'histoire singulière d'Olivia et Alex, mais il y a, en le lisant, j'ai retrouvé tous les mots que j'entends des personnes qui ont perdu un proche par suicide, et c'est vraiment un livre que toute personne qui a perdu un proche par suicide doit lire, parce qu'il y a quelque chose qui va toucher au cœur en disant, ce sont mes mots, elle est en train de me raconter mon histoire.
Aurélie Schneider.
Oui, il y a une autre chose aussi, quand on accompagne les gens qui ont perdu quelqu'un, il y a une chose très importante, c'est la mémoire que ces personnes ont des périodes juste qui précèdent la disparition. Et une chose qui fait beaucoup de bien dans ceux qu'on accompagne, avant la mort de quelqu'un, c'est de leur dire « mais allez-y, soyez présents, tenez la main, dites des choses ». Et là, ça vous a été complètement interdit.
Message de Céline sur notre page Facebook. Mon cousin s'est tué il y a 10 ans et depuis ma vie a changé. Je ne veux pas, je ne peux pas faire mon deuil. Ce serait le laisser partir, ce dont je ne veux pas. Je me sens coupable. Marie-Yvonne, sur notre page Facebook, je passerai le restant de mes jours à me demander ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit du 3 au 4 septembre 2013. Pourquoi mon fils s'est-il suicidé? La question du pourquoi est centrale. La culpabilité des proches est immense. ce Christophe Fauré?
C'est le pilier central du vécu du deuil après suicide. Dans le mot culpabilité, il y a le mot latin culpa, la faute. Et on passe son temps à essayer de trouver en quoi ai-je commis une faute, en quoi je suis responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui s'est passé. Et le drame parfois, que comme on ne trouve pas de réponse, s'il n'y a pas de cause extérieure, eh bien je me désigne comme la cause. Et quand j'accompagne des parents qui ont perdu leur enfant par suicide, ultimement, comme il n'y a pas de cause, c'est moi. Je suis le parent, donc je dois protéger, et donc nécessairement je suis coupable. Et cette culpabilité, c'est parfois même une, paradoxalement, une protection contre l'absurde, le vide de sens. S'il n'y a pas de sens, la vie devient insupportable. Donc si je me désigne comme responsable, au moins il y a un sens, j'en paye le prix fort, mais au moins il y a quelque chose qui est là. Et on voit paradoxalement la dimension presque protectrice de la culpabilité dans ce cas-là.
Docteur Charles-Édouard Notre-Dame.
Il y a une complexité inouïe dans le suicide, à la fois une complexité de l'ordre de l'expérience et une complexité existentielle qui fait que c'est quelque chose qu'il est presque inhumain de pouvoir appréhender, et encore une fois on compose avec l'absurde, et en même temps avant le suicide il y a aussi une immense complexité, ce qui fait que s'il n'y a pas de culpabilité, en revanche avant le suicide il y a des manières d'agir et il y a des manières de prévenir, il n'y a pas une cause unique, en tout cas on peut agir et on peut faire des choses.
Comment on surmonte cette culpabilité, docteur Christophe Fauré?
Je ne sais pas si on l'éteint, je ne crois pas qu'on l'éteint cette culpabilité, mais de revenir encore et encore et encore pour, comment dire, user la charge. En fait, c'est pas la culpabilité qui est aussi tant douloureuse que la charge émotionnelle autour de cette culpabilité, et le fait de revenir encore et encore sur les circonstances va l'user progressivement. Je n'ai jamais entendu des proches qui, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, me dire qu'il n'y a pas des soupçons de culpabilité qui restent, mais on l'apprivoise. On apprivoise ce monstre qui au début dévore toute la vie, et on arrive progressivement à lui trouver une place où il qui rend possible le fait d'être heureux, d'aimer à nouveau. Mais faut bien être clair, comme disait la personne tout à l'heure, le vécu du deuil, c'est tout sauf l'oubli. C'est tout sauf passer à autre chose. C'est simplement un processus naturel de cicatrisation psychique, tout comme notre corps cicatrise une plaie. Et il y a un endroit de nous qui sera blessé à tout jamais. Mais ce processus de deuil va consister à trouver un territoire à l'intérieur de soi. Et à côté peut coexister des temps heureux.
Olivia de Lambertory.
Par rapport à la culpabilité, je me souviens que quand mon frère a fait une première tentative de suicide, il y avait un médecin que pourtant je détestais, un psychiatre, qui avait eu cette phrase, qui avait dit « On ne bâtit rien sur la culpabilité, on bâtit sur la tristesse, on bâtit sur la colère. » Et cette petite phrase était restée en moi. Et à la mort de mon frère, évidemment, la première question qui se pose, c'est celle-là. Et alors moi, j'ai fait un truc différent. C'est que je me suis mis dans la tête de mon frère. Je me suis dit, mais si pour lui, c'était la meilleure des choses, et cette manière de penser a fait que je m'en suis pas trop mal sortie avec la culpabilité. Et je trouve d'ailleurs que on réfléchit beaucoup dans nos sociétés sur le droit de mourir dans la dignité. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un droit au suicide pour les gens qui pensent que la vie est insupportable? Moi, je me suis posé ce genre de questions. Je sais pas.
Charles-Édouard,
j'ai pas les réponses.
C'est une question d'une très grande complexité et qui est tout à fait légitime. Après, ce qu'on observe dans la pratique habituelle et même dans les données de la littérature, c'est que, alors il n'y a pas de chiffre exact, mais dans 95% des cas, les personnes qui ont des idées suicidaires, dès lors qu'on apaise leur souffrance, dès lors qu'on leur apporte un traitement adapté, les idées suicidaires s'amendent. C'est par exemple le cas il y a des unités de crise, par exemple en France, où les personnes rentrent avec des idées suicidaires, et généralement au bout de 3 jours, ils sortent de 3 jours de thérapie intensive, ils sortent de l'unité de crise avec une disparition des idées suicidaires. Peut-être qu'ensuite il y a des situations beaucoup plus marginales, beaucoup plus particulières, qui posent des questions éthiques sensibles.
Olivia Tombertori, vous vous demandez à quel moment votre frère a pris sa décision, a chaviré pour se suicider, donc ce 14 octobre 2015. Des détails qui semblent annonciateurs vous reviennent, quand par exemple votre frère insiste pour acheter une peluche à la fille cadette de votre mari Jean-Marc, qui était alors enceinte, non pas Jean-Marc, mais sa fille cadette.
Clara.
Voilà, c'est des signes qui vous reviennent.
Oui, je pense que mon frère a vécu pendant très longtemps avec cette idée du suicide.
L'ami imaginaire.
L'ami imaginaire, que Peut-être que c'était quelque chose qui l'aidait à vivre, d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais effectivement, si, en essayant de me souvenir de tout, je vois beaucoup de signes. Ma belle-sœur m'en a beaucoup rapporté, où je pense qu'il avait cette idée. Après, dans les jours qui précèdent le passage à l'acte, où tout le monde a semblé dire qu'il allait vraiment beaucoup mieux, il me semble, pour avoir quand même lu pas mal de choses après de psychiatres, que c'est une chose relativement fréquente, une sorte d'apaisement d'avoir pris une décision. Hein.
Charles-Édouard Notre-Dame, sur ces signes annonciateurs.
Chez les personnes qui ont des idées suicidaires, il y a toujours une ambivalence. Il y a toujours cette ambivalence entre « ma vie est insupportable en tant qu'elle est... telle qu'elle est aujourd'hui, je voudrais y mettre un terme parce qu'elle est insupportable aujourd'hui, et en même temps, j'aimerais que ma vie soit différente. » Et les signes annonciateurs sont le fruit de cette ambivalence-là, et finalement de ces interpellations régulières. Alors c'est difficile d'interpeller en disant clairement « je vais pas bien, j'ai des idées suicidaires », et du coup il y a des interpellations qui se font de manière plus tangentielle. Et à certains égards, parfois les tentatives de suicide peuvent être aussi comprises comme ça. C'est l'ultime manière, l'ultime recours pour interpeller autrui.
Christophe
Fauré. Et il y a un réel soulagement, comme le dit Olivia. Parfois les personnes ont cherché pendant des mois ou des années un moyen d'apaiser cette souffrance intérieure, et quand ils ont trouvé la solution qui va être de mettre fin à leur vie pour mettre fin à leur souffrance, il y a un apaisement. Et on voit parfois des lettres qui sont laissées en disant « voilà, j'ai enfin trouvé le moyen de m'apaiser ». Et c'est faussement réassurant pour les proches qui se disent « ah, il va mieux, elle va mieux ». Non, c'est « enfin, je vais mettre terme à ma souffrance et je vais surtout pas en parler à mes proches pour ne pas qu'ils m'empêchent de passer à l'acte et de me retirer, de m'ôter ce moyen d'enlever ma souffrance ».
C'est tout à fait juste. En même temps, il faut vraiment garder en tête que cette souffrance-là, ça reste, en tout cas le suicide, ça reste un non-choix quand toutes les autres options sont disparues. Et que le travail du soin, et ça c'est des choses qu'on fait quotidiennement, le travail du soin consiste à faire réapparaître des options de vie qui avait disparu, parce que quand on a des idées suicidaires, on voit le monde, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on voit le monde différemment et plus noir qu'il n'est.
Et après la mort de votre frère, Olivia de Lamberterie, vous avez envie de hurler et de vous engueuler avec le premier venu.
Oui, parce que d'abord j'avais une grande colère. Alors je suis ici avec deux psychiatres dont j'écoute avec intérêt les discours, mais je trouve que mon frère a été très mal soigné. On ne l'a pas entendu, ça c'est la première chose, donc j'avais une grande colère. Et puis après, effectivement, j'avais une colère vis-à-vis de la vanité de certaines choses, et notamment, alors je trouvais déjà avant la mort de mon frère que les gens sont obsédés par la nourriture.
Vous écrivez, il me semble bien étrange, c'est bien nourri, affairé à chérir leur intestin, comme si la mort n'existait pas.
Oui, alors honnêtement, je ne suis pas du tout une personne morbide, je ne suis pas une personne sinistre, mais je trouve qu'il y a une sorte d'excès. Peut-être que c'est comme si en fait la nourriture était la nouvelle religion. C'est la même chose, hein. C'est pour ne pas mourir, c'est comme une secte. C'est très très curieux pour moi.
Allez, il est l'heure de retrouver les choses vues, assurées cette semaine par notre amie psychiatre Aurélia Schneider.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin? Psychiatre.
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Aurélia Schneider, que vous inspire notre thème du jour dans vos choses vues?
Alors, cher Ali, vous me demandez aujourd'hui de parler de suicide. Ce sujet douloureusement humain préoccupe évidemment la psychiatre et la mortelle que je suis. Chère Olivia, j'ai la chance de vous voir en vrai, mais j'avais, comme beaucoup d'entre nous, aperçu votre belle âme au travers de votre livre magnifique. Je dois dire que je suis un peu intimidée de parler de ce sujet devant vous qui avez vécu ce drame de l'intérieur. La perte d'un proche, c'est un impitoyable avant-après. On s'en sort douloureusement comme on peut. Le suicide, c'est aussi cela, mais en pire. Dans votre livre, vous dites finement « c'est comme au Scrabble, mot compte triple ». Oui, c'est vrai, mais je vais encore plus loin. C'est la multipeine. On perd quelqu'un qu'on aime, on se reproche de n'avoir rien vu venir, on se culpabilise de n'avoir pas été suffisamment présent à ses côtés, on est écrasé par un sentiment d'impuissance, on a honte, on s'isole, on est en colère envers le disparu, nous-mêmes, ce qui accroît notre culpabilité, et surtout, on ne comprend pas pourquoi cet être si proche a voulu disparaître alors que l'on s'aimait tant. En plus, nous sommes constamment en quête de sens à donner à notre vie, et quand certains choisissent de l'abréger, cela remet tout notre système de valeurs en question.
Les facteurs impliqués dans le risque suicidaire sont multiples. Et de nombreuses études ont montré que la majorité des personnes qui se suicident souffrent de dépression au moment de leur geste. Environ 20% d'entre nous connaissent un état dépressif dans leur vie. C'est beaucoup. Nous sommes en quelque sorte des funambules qui marchons sur le fil d'un équilibre fragile entre nos pensées positives et nos pensées négatives. Lorsque nous sommes déprimés, nous sommes envahis par la tristesse et quand la vie n'a plus de sens, que l'on se sent exclu, la détresse psychique devient telle que les idées suicidaires sont fréquentes. Et on appelle ça la douleur morale. À son paroxysme, cette douleur morale est une expérience insupportable à comparer avec la pire des douleurs physiques, vous savez, celle qui nous broie le corps ou qui nous pourfend le crâne et qui appelle la morphine. Cet état de souffrance émotionnelle majeure sous-tend en général le geste suicidaire, car on ne réfléchit plus, on veut juste que ça s'arrête par tous les moyens. Or, cette souffrance nous empêche d'accéder aux voies du raisonnement situées dans notre cerveau, au niveau du cortex orbitofrontal. Il n'est donc pas si sûr que le suicide soit un choix si l'on considère que les circuits du raisonnement et de la prise de décision rationnelle sont alors bloqués. Heureusement, depuis quelques années, notre pays a pris conscience de l'ampleur du problème et organise une prévention active du suicide et un soutien des proches. Pour ces endeuillés particuliers, une des difficultés est d'arriver à décoller cette étiquette et de continuer, chacun à sa façon, de rendre hommage à toute la vie de celui qui a disparu. Après des heures très sombres, Fatima, une de mes patientes, revit. Elle m'a autorisée à partager ses paroles. La vie est une parenthèse qui peut se refermer à tout moment. Ce qui compte, c'est ce que l'on y met. Mes enfants me rappellent que je laisserai grâce à eux la plus belle trace qui puisse exister dans cette parenthèse. Merci à mes proches d'être là. Il faut savoir s'entourer, car bien accompagné, on va plus loin dans le bonheur. Alors, chère Ali, quel sujet fondamental évoquerons-nous une prochaine fois ? L'amour, peut-être, à saupoudrer alors généreusement chacun et chacune sur notre petite parenthèse de vie.
L'amour, toujours la belle chronique d'Aurélia Schneider. Les choses vues à voir en vidéo sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Un commentaire, Olivia de Lamberterie.
J'ai trouvé cette chronique très belle et très juste. Et je pense que... Après, il faut mettre de l'amour et de la joie. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi, c'est inventer une manière joyeuse d'être triste.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebi.
Écoutons l'actrice Lola Dever qui s'exprime sur le suicide de son père Patrick Dever.
Rien vous dire, moi, sur lui. Voilà, je suis désolée de... Je ne l'ai pas du tout connu, donc...
Vous avez eu des mots... Enfin, j'ai retrouvé une interview de 2013, où vous dites « Je considère le suicide de mon père comme un abandon ». C'est fort, c'est... Enfin, quand on dit ça, on se dit...
Je crois que c'est toutes les personnes qui vivent malheureusement une tragédie comme celle-ci. Le suicide, c'est toujours l'impression... de l'abandon, de voilà, d'un abandon. Mais moi, en tant que père fille, c'est sûr que je me suis dit très longtemps qu'il m'avait pas assez aimé pour ne pas vouloir rester parmi nous.
Lola Dever sur LCI en 2016, le suicide d'un proche peut être vécu comme un rejet, un abandon délibéré, et ça peut être difficile à vivre, docteur Christophe Fauré.
Beaucoup pour les enfants. Les enfants, c'est je ne suis pas assez aimé de mon papa ou de ma maman. Et il choisit de partir. Donc, ou pour un conjoint, la force de mon amour n'est pas suffisante pour te retenir à la vie. Et après, on se demande, mais quelle est la qualité de l'amour que je donne? C'est pas assez, ça n'a pas suffi. Et il y a, dans le deuil après suicide, une atteinte profonde de l'estime de soi et de la capacité à véritablement ouvrir son cœur.
Quels sont les risques pour...
Il peut y avoir vraiment une mésestime de soi qui peut s'installer avec l'impression qu'on n'est jamais assez et ce qu'on va donner est de piètre qualité. Et là, ça peut vraiment impacter sur la capacité d'aimer à nouveau. nouveau.
Docteur Charles-Édouard Notre-Dame.
Il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il faut reconnaître que les personnes qui sont endeuillées par suicide sont eux-mêmes plus à risque de difficultés de santé mentale, plus à risque de suicide. Et donc, il faut savoir prendre soin et accompagner les personnes qui sont endeuillées par suicide. La deuxième, c'est que c'est très intéressant cet abandon que peuvent vivre les proches. Finalement, la personne qui a des idées suicidaires, très fréquemment, ressent aussi un grand rejet, un grand abandon, de manière, pas de ses proches, hein, mais de manière générale, une impression de rejet social, d'exclusion sociale, qui est extrêmement douloureux et qui contribue au risque suicidaire.
Et parfois, les lettres que les personnes laissent disent « Vous n'êtes coupable de rien, c'est que moi, c'est pas vous. » Et malgré ces lettres, on voit que les proches sont dévorés de cette culpabilité et la lettre, au bout du compte, n'atteint pas son but.
Olivier de Lambertori.
Mais parce que j'ai l'impression que l'amour, en fait, n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment que l'amour que je portais à mon frère et l'amour qu'il nous portait était dérisoire par rapport, j'ai beaucoup aimé votre expression, Aurélia, à cette douleur morale. Et que l'amour n'allait pas faire le poids.
Exactement.
Par rapport à ça.
Charles-Édouard Notre-Dame, pourquoi est-il important de se faire accompagner dans ce type de deuil ?
C'est particulièrement important, bah, pour toutes les raisons qu'on vient.
Il y a beaucoup d'associations. Hein.
Oui, oui, absolument. C'est particulièrement important pour toutes les raisons qu'on a dites, parce que un deuil vulnérabilise énormément, parce qu'un deuil augmente le risque, comme je le disais, de difficultés de santé mentale et de suicide, et aussi parce que un deuil par suicide isole énormément et que il met la personne en face de l'absurde et du grand vide. Et ça, il y a besoin de retisser le lien social.
Olivier de Lambertori, Les Repères, c'est votre mari, bien connu des auditeurs du Masque et la Plume, oui. Jean-Marc, vos enfants. Des livres vous ont aidé également, je pense au beau livre de Jérôme Garcin, Olivier. Et une femme qui vous a donné un élan vital, la journaliste Alix de Saint-André. Les livres et certaines personnes.
Les livres, les écrivains, mes parents et mes sœurs.
Bien sûr.
Qui sont moins présentes dans ce livre, mais parce que j'ai voulu les protéger. Parce que je pense que pour les parents, c'est la pire chose du monde. Mais mes parents sont vraiment merveilleux, courageux. Et mes sœurs, mon frère et moi, on est ce qu'on est devenu vraiment grâce à eux. Et les livres, évidemment, sont des petites boussoles. Bien sûr.
Olivier,
Olivier de Jérôme Garcin est un livre merveilleux sur la perte
de son frère,
jumeau à l'âge de 6 ans. Et je trouve qu'il explique très bien ce que c'est que la démarche d'écrire. Je ne suis pas sûre que j'aurais écrit ce livre sans Jérôme Garcin.
Françoise nous dit, parent d'un enfant de 12 ans qui s'est suicidé, comment est-ce possible comment est-ce possible ? Charles-Édouard Notre-Dame.
C'est effectivement de l'ordre de l'insoutenable et de l'impensable, hein, un enfant qui suicide. Et pourtant, alors le suicide chez les enfants est relativement rare par rapport à la totalité des suicides, ça il faut le noter. Et pourtant, il y a quand même des enfants qui souffrent tellement qu'ils en viennent à se donner la mort.
Bonjour Charlotte, bienvenue.
Bonjour.
Nous écoutons votre témoignage, Charlotte.
Ah oui, alors j'ai plusieurs points à dire sur le suicide. Mon papa s'est suicidé. Et je voulais dire que contredire la dame qui faisait une généralité sur le fait que les gens qui se suicidaient ne permettaient pas de garder de bons souvenirs d'eux. Alors si elle parle d'elle, d'accord, mais je pense pas que ça puisse être général parce que dans mon cas ça ne l'est pas. Je garde de bons souvenirs des moments joyeux. Et justement, il y a deux jours, je parlais à un ami de. Je repensais à mon père qui pétait sur des chansons de Bobby Lapointe, enfin une chanson particulière, et qui rythmait ça avec un P. Moi, ça m'a fait rire, il faisait beaucoup de choses comme ça. Donc il y a des moments drôles qui reviennent, donc voilà, pour dire aux auditeurs, c'est pas vrai, vous inquiétez pas, les bons souvenirs vont revenir. Deuxième point, oui.
Allez-y.
Deuxième point, mon père était quelqu'un d'autoritaire, c'était un tyran domestique, très un côté dictateur, très dur. Et ben en se suicidant, c'est devenu un homme vertueux. Et du coup, c'est ma mère qui prend tous les reproches, en tout cas de ma part, elle en prend beaucoup. J'en ai conscience et j'essaie de faire attention, mais du coup, lui, il est plus là pour. ensuite, je voulais dire aussi que quand quelqu'un se suicide. En tout cas, dans ce qui est mon cas, tout le monde a été surpris, on s'y attend pas, vraiment pas. Mais quelque part, on le sait, les seules personnes de toute la famille, on était une grande famille, qui n'ont pas été surpris, c'est moi et mon frère. Et je pense que c'est parce que quand on est enfant, on connaît l'intrinsèque de nos parents depuis qu'on est tout petit. On sait s'il y avait une tristesse chez lui. Et ça, je l'ai toujours senti. Ça se sent quand on est un enfant. Et les parents très proches, son propre frère, ne savait pas que c'était quelqu'un qui avait cette tristesse qui l'a traîné depuis qu'il était petit.
Merci Charlotte. Merci beaucoup Charlotte pour votre témoignage. Olivia d'Amberthery, avec toutes mes sympathies, c'est ce que vous dit un douanier au Canada. Vous étiez un peu surprise par cette expression.
J'étais très surprise.
Expliquez-nous.
Alors, c'était vraiment le lendemain de la disparition de mon frère, donc j'étais dans un état de sidération et de choc terrible. Et il m'a un peu ennuyée parce que il pensait que j'avais de l'alcool. Et donc, il a fini par me dire, quand je lui ai dit que mon frère était mort, avec toutes mes sympathies, et je n'ai pas compris sur le moment, je me suis dit, les douaniers sont des êtres poétiques. En tous les cas, québécois, parce qu'aucun douanier français ne m'aurait dit que votre frère était très sympathique.
Un dernier mot, nous avons une petite minute, Charles-Édouard Notre-Dame. Le suicide n'est pas une fatalité, vous militez pour la prévention.
Absolument. Dans tout ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, il est possible de repérer les signes avant-coureurs d'un suicide. Alors parfois pas forcément l'entourage, n'empêche que socialement, on a à se saisir de ça collectivement et à pouvoir repérer les signes d'alerte. Ils sont très simples. Et
quels signes d'alerte ?
Alors les signes d'alerte, c'est des signes qui sont déjà quelqu'un qui parle de ses idées suicidaires. Il ne faut jamais banaliser quelqu'un qui dit qu'il a des idées suicidaires. Et puis après, ce sont des signes de repli, d'isolement, de rupture. En fait, globalement, c'est la rupture avec un état antérieur.
Le point essentiel, sortons du silence autour du suicide. Sortons de ce silence qui génère une souffrance totalement inutile.
Merci à tous d'être venus. Je recommande la lecture du beau récit d'Olivia de Lamberthery, bouleversant et parfois drôle, pas du tout mortifère, avec toutes mes sympathies chez Stock. Merci Christophe Fauré. Vivre le deuil au jour le jour, nouvelle édition chez Albin Michel. Merci Charles-Édouard Notre-Dame d'être venu de Lille. Dans un instant, l'intervention de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
I'm no longer found, bugs got on Miami, bastard in the yard, spiders on my tummy. I'm no longer found, sex got on my pride. I'm no longer found, bastard in the yard of angels. Disabled, I saw someone change the labels. I've seen it, I saw someone change the meaning. Once we were alive, got on my boogie, crawling in the yard, acid went right for me. I'm no longer found, love got on my down. I'm no longer found, flying in the sky like Cupid. Hypocrite, I saw someone change their habits. I've seen it, they saw. Like we almost
Le très beau titre de Tamino, Tommy. Marie-Laure Sunshine. Alors, dans Femme Actuelle, cette semaine, vous vous intéressez à ces vidéos d'enfants, parfois agaçants, sur YouTube, qui font polémique.
Alice, si je vous dis, les enfants sont pourris, vous savez, alors qu'avec un bout de ficelle et un morceau de carton, ils s'amusent comme des fous, vous me répondez, Madame Musquin.
Exactement.
Tante Bernole est une ordure. Eh bien, qu'en dirait-elle aujourd'hui? Désormais, le carton est plein, et surtout, la scène est filmée par les parents. Ce type de vidéo consumériste inonde YouTube, on appelle ça de l'unboxing. Des enfants exaltés déballent face caméra des cartons remplis de jouets, de vêtements, de produits divers, et donnent leurs impressions. Il existe des chaînes dédiées, dites familiales, qui comptent plusieurs millions d'abonnés. Tout le monde y gagne. Les marques qui envoient leurs produits et laissent faire le buzz, sans campagne de promotion coûteuse. YouTube, via les publicités payantes, qui encadre ces vidéos, mais aussi et surtout les parents qui perçoivent les revenus générés par le nombre de vidéos vues, un business qui tourne bien et qui se développe. Et les enfants dans tout ça? Eh bien, la main sur le cœur, les parents affirment que c'est une activité ludique comme une autre, source de plaisir et d'apprentissage. Ben voyons, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique y voit surtout un véritable travail dissimulé. L'association pointe le vide juridique et réclame un statut comme celui des enfants du spectacle pour encadrer leurs horaires et prévoir le versement de leurs revenus sur un compte bloqué jusqu'à leur majorité. Quant à l'impact sur le développement des enfants, les pédopsychiatres sont perplexes. Qu'en est-il de leur libre arbitre? Devenus ados, reprocheront-ils à leurs parents de les avoir dépossédés de leur enfance? Et comment gérer cette popularité soudaine qui peut disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue? Également un vrai sujet de réflexion pour le CSA qui souhaite étendre son pouvoir de régulation sur les contenus numériques. Quant au Conseil national de protection à l'enfance, il a été saisi pour encadrer ce phénomène.
Un papier à lire dans le Femme Actuelle de cette semaine, rassurez-moi, vos enfants font pas ça.
Bon, ils sont déjà bien trop grands.
On sait jamais. On sait jamais. Ni les vôtres, Olivia de Lamberterie. Vous avez deux petits garçons. Oui. Ils font pas ça, j'espère.
Non, j'ignorais même que ça existait. Voilà. Je dois dire que j'en reste sans voix.
Merci Marie-Laure Sunshine. À mardi prochain. Demain, avec le magazine Astrapi, on s'intéresse à ce qui rend nos enfants heureux. Nous aurons des enfants autour de la table. Et j'aimerais que des enfants nous appellent demain au 01 45 24 7000 pour nous dire ce qui les rend heureux, qu'ils nous racontent les grands moments de bonheur de leur vie. Les enfants, appelez-nous au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Pierre Faucillon et Pierre-Yves Derolin.